Comment ne plus être un objet de consommation, un produit sur le marché de l'amour? Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. En attendant, j'ai commencé à parler de comment moi je me suis rendu compte que j'étais un produit. Alors bien sûr, bon, j'en ai parlé dans le podcast, vous connaissez l'histoire. Quand je me suis rendu compte que j'étais la girlfriend experience des mecs avec qui j'étais. Girlfriend experience, c'est le terme qu'on utilise dans le domaine de la prostitution pour parler de cette forme de prostitution qui est très émotionnelle, où on va mimer effectivement ce que c'est qu'être une petite amie. Et où je me suis rendu compte qu'être une petite amie, c'était curieusement semblable au taf que ça représentait. Donc c'est vrai que quand on se dit comment ne pas être un produit, on se dit bon, c'est quoi être un produit? Déjà, on va penser en premier ben, forcément à l'apparence physique. L'apparence physique, c'est pas un secret que les femmes, elles sont vraiment matrixées. À mettre leur apparence physique en premier dans le but d'obtenir l'attention des gars au point que ça devienne un travail. En fait, ça demande de développer des skills, c'est-à-dire des compétences, de prendre du temps, de prendre de l'argent pour alimenter ces trucs-là, pour arriver dans cette espèce de truc où on est bien apprêté, comme la meuf qui est censée correspondre bah, aux attentes qu'on a pour être... datable, baisable, pour avoir droit à un peu d'attention. Donc on pourrait se dire, ok, est-ce que du coup, pour pas être un objet de consommation, un produit sur le marché de l'amour, est-ce qu'il faut qu'on fasse l'impasse de ce truc-là? De bah, tous ces codes sociaux autour de la féminité. Donc les codes sociaux autour de la féminité, c'est le maquillage, c'est la coiffure, c'est la tenue. Et là, en fait, on peut se retrouver à se dire, est-ce que j'ai envie de faire l'impasse là-dessus, alors que j'ai passé toute ma vie à me bâtir une espèce d'assurance autour de ce truc-là? Comment je me sens, en fait, quand je gère tout ça? Donc il y a certaines féministes qui vont dire, bah, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais affronter ce truc-là, et fuck it, j'en ai marre, je me maquille plus, je me teins plus les cheveux. Je crois que je suis le bon exemple pour parler de ce sujet. Je m'habille comme j'ai envie, etc. Fuck it, toutes ces normes. Mais il y a beaucoup de féministes qui disent, bah oui, j'entends bien. Et j'entends bien qu'effectivement, le fait que j'ai des contraintes d'apparence qui s'apparentent à un cahier des charges, que si je remplis pas le cahier des charges, je suis pas suffisamment vendable, un peu comme ces légumes qui ne remplissent pas le cahier des charges parce qu'ils sont un peu tarabiscotés et qu'on se dit, ah là là, on peut pas les mettre sur les étals quand même, ils vont pas être achetés. Bah en fait, on peut se rendre compte quand on se pose la question que c'est un truc vachement plus difficile à faire qu'à dire. Donc, je vais en parler effectivement de comment est-ce qu'on arrête d'être un produit, mais cette première question, c'est vrai que c'est un truc qui peut paraître difficile. Mais est-ce que c'est pas un peu trop extrémiste? Hein, c'est la question, est-ce que c'est pas trop extrémiste de renoncer à tous ces artifices de la féminité? C'est un peu ce qu'on dit, les féministes, c'est cette bande hystérique qui s'épile pas, qui sont trop moches, etc. C'est vraiment une espèce d'attaque récurrente. Et puis aussi, des fois, on peut se dire, d'accord, peut-être j'adhère pas au niveau valeur, mais en fait, en vrai, je me sens pas bien si j'ai pas cet attirail-là. Je me sens pas, j'aime pas mon image si j'ai pas cet attirail-là. Et c'est une question, c'est un espèce de dilemme. C'est le dilemme de la féministe qui en même temps a envie de suivre ses valeurs et en même temps dire mais je vois bien que tout ça c'est une mascarade et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Bon ensuite à part cette question du physique, il y a tout un tas d'autres trucs que le maquillage, les vêtements, la coiffure, etc. pour fitter dans ce qu'on attend de nous sur le marché de l'amour. Il y a aussi le comportement en fait. On parle de tout ce travail qui est un travail émotionnel, qui est le travail de mettre l'autre à l'aise en fait. Je sais pas. Si c'est quelque chose qui est récurrent, je pense que oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti beaucoup en période où je date, c'est ce côté de me poser des questions. Est-ce que je suis à la hauteur? Qu'est-ce qu'il a pensé de moi? Est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait? Et à essayer de me mettre dans cette meilleure configuration d'être à mon meilleur et de raconter des histoires incroyables et d'être en mode genre je le divertis. Et c'est vrai que du coup, bah là aussi, ce truc-là, ça peut devenir une espèce d'extrême où justement on n'est plus dans la spontanéité d'avoir juste envie de raconter ce qu'on a envie de raconter, on est dans un espèce de show où du coup le gars il a dîner et spectacle quoi. C'est vraiment ça, c'est dîner et spectacle, on est là pour le faire passer le temps en fait. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis rendu compte que effectivement je ne devais pas quelque chose à quelqu'un qui m'offrait un verre, c'est quand je me suis rendu compte le nombre de mecs friqués qui s'accordaient le petit luxe de payer une meuf juste pour pouvoir aller dans un bon resto, aller faire un truc sympa, partir en voyage. Parce qu'en fait le mec n'avait pas envie de le faire seul et qu'en fait l'autre personne était là pour participer à ce divertissement de la même manière que le repas, le voyage, le spectacle. Et que ce travail qui était un peu plus invisible, parce que c'était un travail plus de comportement, bah, ça nous rapprochait aussi du fait d'être un objet à vendre, un objet qui se vend, qui fait sa pub, sa promo pour dire regarde comme je te divertis bien, comme je suis ce joli objet, cette jolie potiche à côté de toi qui en plus va avoir les bons mots. J'ai mis du temps à me rendre compte que ça me distinguait pas en tant que féministe. de me dire oui, mais moi je ne suis pas juste jolie, je suis aussi intelligente, je vais savoir comment dire les trucs les plus futés, les plus. Maman, donc c'était aussi une soumission aux normes de genre, en mode genre en fait, je suis là pour divertir l'autre, et c'est pas parce que j'ai décidé que ça passerait pas que par mon physique que c'était pas la logique qu'il y avait derrière. Donc, bon, quand on voit tout ça, on se dit, bon, on est un peu emmerdé. Moi, je vois plein d'autrices féministes qui, justement, commencent à remettre en question, d'un point de vue bien vénère, toute cette question, justement, des relations amoureuses, des rencontres, de dater. Je vois le dernier bouquin d'Ovidie, La chair est triste, hélas, ou le taf de Olympe de Gé pour parler de sa grève du sexe, ou le podcast Sologamy, ou le podcast Single Jungle, qui vont vraiment aborder toutes ces questions-là en mode genre en fait on fait la grève, on en a marre, on veut plus être des produits donc on arrête de taffer. On veut plus être le truc qui doit convaincre l'autre de nous acheter, parce que c'est trop dégradant en fait en tant que femme de se dire je continue d'être cet objet. Et ça prend juste une forme différente, mais je reste toujours un objet. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à cette médiatisation grandissante de la question de la grève du sexe, et qui est en fait une grève plus large, la grève de la performance de la féminité, bah, il y a plein de nanas qui disaient ça en disant « mais je me reconnais pas du tout là-dedans, ça me fait pas du tout envie, ça me fait un peu flipper ». Mais parce qu'en fait, on fait tellement ça pour un truc qui nous paraît vital, qui est l'attention de l'autre, qu'on se dit « mais si j'arrête de le faire, ce qu'il y a de l'autre côté, ça me fait un peu flipper », et qu'il faut vraiment atteindre un stade de ras-le-bol pour dire « bah je m'en fous, je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de chercher leur attention ». J'ai le sentiment d'avoir trouvé un truc qui, moi, m'a apporté de la paix par rapport à cette question d'être un produit sur le marché de l'amour, qui est pas de se dire « bah fuck it, je vais performer parce que j'ai toujours fait comme ça, et que c'est la seule chose que je sais faire, et que ne pas le faire me fait trop peur », ou me dire « plus jamais je bosserai, je vais le laisser se dépatouiller et j'arrête d'être la larbine de service ». L'entre-deux que j'ai trouvé, ce qui pour moi correspond à mon juste milieu, c'est d'accepter que cette société m'a éduquée à aimer certaines choses, m'a éduquée à obtenir certains skills, et que développer certains de ces skills m'a plu. J'ai trouvé une sorte de plaisir dans cette espèce de performance, des fois de dire « ah là c'était vraiment une super performance, j'étais au top, c'était cool ». Et en même temps que j'accepte ce truc-là, que peut-être que j'ai développé des liens avec cet univers de la féminité qui était... Qui, ça m'était un peu bourré dans le crâne, que j'ai pas vraiment décidé de le faire, mais que j'ai trouvé mon compte parfois. D'un autre côté, de me dire oui, mais si on considère que le travail, c'est ce qu'on fait pour l'autre, c'est ce qu'on fait pour rendre service à l'autre, c'est ce qu'on fait qui apporte de la valeur à l'autre, qu'est-ce qui se passe si je change la perspective et au lieu de me demander qu'est-ce qu'il a pensé de moi, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je suis bien habillée comme il faut, est-ce que je suis jolie, est-ce que machin, est-ce que je vais être approuvée, est-ce que je vais avoir son attention, si je tournais cette question plutôt de l'intérieur en disant comment je me sens? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui fait me sentir bien? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Et que ce soit cette réponse-là qui guide ma façon de me comporter. Donc il y a des jours où cette question-là, quand je me pose cette question de comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, bah ça va être, bah en fait, aujourd'hui j'ai besoin de me reposer, je me sens fatiguée, j'ai besoin d'un truc très confortable, j'ai besoin d'être là pour moi en fait, j'ai besoin de me lâcher la grappe, j'ai besoin de faire un service minimum, j'ai envie de mettre un truc qui correspond à mon besoin de ce moment-là et qui parfois va être totalement à l'antipode de cet attirail de la féminité performée. Et parfois, quand je me pose la question de qu'est-ce qui me fait kiffer là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plairait moi, comment je me sens, bah parfois ça va être bah là, en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'être sexy, d'être une bombe, j'ai envie d'aller danser. Et parfois, cette image-là correspond de l'extérieur à ce qu'on peut imaginer être l'attirail de la féminité performée, mais qui n'est plus performée pour l'autre, en fait, qui est quelque chose qui est tourné vers moi. Il y a une phrase que j'ai kiffée. Mais vraiment que j'ai kiffé, que j'ai lu dans, je crois que c'est dans le journal de la grève sexuelle de Olympe de Gé, qui est accessible dans ses articles. Elle a mis en place des abonnements où on peut accéder à tout son boulot. Et cette phrase, vraiment, elle m'a marquée, et je lui en ai parlé en story à un moment, c'était « je me drague ». En fait, je fais pas les choses pour obtenir l'approbation, je fais pas les choses pour avoir le tampon estampillé « femme » authentique. Alors, la femme authentique, selon la société, elle est tout sauf authentique, mais bon, bref. Si je faisais les choses pour moi, et parfois faire les choses pour moi, ça va être me faire un gros kiff avec un maquillage parce que j'ai passé des années à apprendre à le faire et que maintenant j'aime bien le faire, mais je le fais pas pour l'autre. Ça, c'est le juste milieu que j'ai trouvé pour moi, et je me suis rendu compte que dans mes relations, ça aboutissait à des choses très différentes en termes de dynamique. Par exemple, alors, cette question du maquillage. Bon, j'ai passé longtemps à me dire quel est le meilleur maquillage qui me va le mieux, blablabla, pour fitter à ces attentes qu'a la société, que ma pretty face soit toujours à son prettiest, etc. Et puis à un moment, je me suis retrouvée à relationner avec une personne qui était plutôt en mode moi j'aime beaucoup les femmes qui ne se maquillent pas. Alors ce qu'il y avait derrière c'était j'aime beaucoup les femmes qui ont des maquillages nudes. C'était plutôt ça en réalité ce qu'il y avait derrière. Et en fait à ce moment-là je me suis dit ok, la question c'est quand je me maquille, je le fais pour qui? Et quand je me maquille, qu'est-ce qui me fait kiffer? Bah en fait dans cette relation, je me suis rendu compte que le maquillage nude, oui c'était un truc que je trouvais intéressant en termes de concept etc. Mais que ce maquillage-là qui n'est pas un maquillage nude, c'était celui que j'aimais moi en fait, c'est celui qui me faisait kiffer moi, et que j'allais pas me mettre la pression de me dire si je n'ai pas cette tête-là, je m'aime pas, c'était pas ça. Mais c'est-à-dire, mais les jours où j'ai envie de me faire kiffer à me maquiller, c'est ce maquillage que je fais parce que c'est moi qui me fais kiffer. C'est moi qui me drague. En fait, je suis la personne à séduire. Je savais que ça me rendait pas moins séduisante pour lui, que c'était, enfin, j'allais pas perdre son attention, etc. Parce que je ne correspondais pas à sa liste de courses de à quoi ressemble la poupée la plus achetable sur le marché. Même c'est un truc où j'avais trouvé vraiment très très criant de à quel point on se fait une montagne de si on rentre pas dans les critères, on sera pas accepté. Moi, je sais que le truc qui est le plus controversé me concernant, qui correspond le moins à cet attirail de la féminité performée, c'est le fait que je m'épile pas. Je m'épile pas et je suis brune et je suis pas un peu poilue, je suis beaucoup poilue. J'ai des poils à des endroits où toute ma vie j'ai entendu dire qu'on n'était pas une femme quand on avait des poils à ces endroits-là. J'ai des poils à des endroits où j'ai vu des gars commenter sur internet sur des photos de meufs qui avaient une pilosité similaire à la mienne, dire ce n'est pas possible. C'est des effets spéciaux, ce n'est pas possible d'être une femme et d'avoir vraiment ces poils-là. Donc ça, je sais que c'est vraiment le truc qui me met le plus au banc des normes sociales, de ce qu'on doit être en tant que produit parfait, avec ce cahier des charges inatteignable de la féminité performée. Au début, je l'ai pas fait. Alors, au début, je l'ai pas fait parce que je kiffais. J'étais un peu obligée. Je me suis retrouvée dans une situation où c'était vraiment important que je le fasse pour des raisons de santé. Et je me détestais. C'était horrible. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais, mais c'est dégueulasse, je suis un monstre. Je suis un ours poilu, c'est trop moche. Et donc voilà, le démarrage, c'était vraiment pas un truc en mode genre, ouais, je kiffe faire mes propres choix, mon corps, mes choix. C'était vraiment en mode genre, je vais être raisonnable, je vais pas m'épiler, mais vraiment, j'ai du mal à me regarder dans la glace. Et en tant que féministe, ça m'a un peu heurtée de me dire, waouh, tant de haine de soi, c'est chaud. C'est chaud. Et bah la jolie fin de l'histoire, c'est que j'ai pris le truc à bras-le-corps en me disant en fait il est hors de question que je me déteste pour un truc aussi débile et qui correspond tellement pas à mes valeurs. Peut-être je ferai un épisode là-dessus, sur qu'est-ce qui a modifié ma vision de moi-même pour passer de j'ai intériorisé une norme de dégoût à en fait quand je vois mes poils je trouve ça kiffant, je les trouve trop chouettes. Trop sympa, ils sont. C'est plein de petits organes de sensitifs, c'est-à-dire que la première fois que j'ai senti le vent dans mes poils de jambes, je fais waouh, j'ai jamais senti ça! Parce que l'épilation, en fait, ça crée une espèce d'anesthésie, parce que les poils, ça fait partie des organes sensitifs. J'ai un commentaire qui me dit en même temps, les poils chez les femmes, c'est vraiment un sujet où on nous raconte n'importe quoi depuis 20 ou 30 ans. Ah oh, oui, c'est tellement de la désinformation le sujet des poils, c'est aberrant quoi. C'est une théorie du complot, les poils, la question des poils et des femmes. Et donc, du coup, bah, toujours ce même gars qui aimait que je sois maquillée en nude et où j'avais dit fort bien, j'entends. Ben moi, quand je me maquille, je le fais pour me faire kiffer moi. Ben lui, il kiffait pas du tout mes poils. Vraiment, c'était un truc où il disait, ben, je comprends mon corps, mon choix, tout ça, je respecte. Jamais je te demanderai de t'épiler. Jamais je te demanderai de t'épiler pour moi. Mais vraiment, c'est quelque chose que, en termes, je peux pas faire autrement que ne pas aimer ça. Et à un moment, on a eu une discussion où on était en train de... Je parlais justement de ce rapport au travail, de dire, ben, moi, il y a des cas de figure où faire le taf, si je suis payée pour, why not? Et donc, il avait abordé le sujet, il avait dit, d'accord, combien pour te faire épiler? Et là, la question s'est posée, je me suis dit, bon, si je pose la question vraiment sincèrement, avec ma grille de lecture en fait de meuf qui a bossé avec la grille tarifaire etc qui cherche à trouver de la valeur, je te dis ça vaut quoi que je m'épile? Donc je me dis bon ça vaut quoi ça? Bon alors il y a l'expérience de se faire épiler, ça fait mal. Ensuite il y a l'expérience de la repousse, non c'est chaotique. Je me rappelle comment c'était chiant, ça pique machin etc. J'ai pas de mal avec les meufs qui s'épilent, j'ai vraiment pas de mal avec ça, je suis pas en train de dire vous êtes une traître à la cause, mais moi vraiment j'ai passé un cap où je ne peux pas revenir en arrière. Et donc du coup je me dis bon il y a la phase de repousse et puis il y a le côté le temps qu'ils redeviennent aussi longs comme ça, soyeux, tout doux, où ils sont vraiment à leur longueur maximum, ça prend du temps en fait. C'est pas juste j'attends qu'ils repoussent de 2 mm la partie où ça pique, où ça gratte, où c'est pas agréable. Donc le temps pendant lequel moi je kiffe pas. Le temps pendant lequel ma peau elle est pas agréable à toucher, le sentiment dans les vêtements c'est chelou, machin, etc. Et du coup, bah, ça met plus d'un mois à repousser pour qu'il soit bien long et soyeux, ça prend plusieurs mois. Et donc là, j'ai dit ok, donc par rapport à tout ça, ce que ça représente comme taf, si je mette une somme honnête, vraiment, qui est juste, quelle somme, sur cette somme-là, oui, j'accepte, je crois que j'étais arrivée à un chiffre genre 7000 euros. Si tu me payes 7000 euros, je peux m'épiler une fois. 7000 euros par épilation. C'était le gars, c'était le personnage Mister Je coche toutes les cases dont je parle dans l'épisode 5, qui du coup avait masse de pognon et qui s'est demandé s'il allait. Il m'a dit, ah, on peut négocier. J'ai vu dans ses yeux qu'il s'est posé la question de se dire, est-ce que je paierai pour qu'elle s'épile? Et après, il m'a dit, et pour une épilation définitive? Et là, j'ai évalué la somme dans ma tête, j'ai fait, bah non, là en fait, c'est de l'ordre de la mutilation par rapport au fait que j'aime mes poils. Je peux pas. Le prix est trop astronomique, je ne mets pas de prix là-dessus. Comme je le disais dans l'épisode sur Louise Brévin, sur les prostituées de l'extrême, qui en fait ont des prix extrêmes parce qu'elles demandent une dissociation extrême, c'était vraiment ce truc de dire, il n'y a pas d'humain sur la planète pour me payer assez, pour me faire épiler définitivement. Et là, je me suis vraiment dit, waouh, quel chemin parcouru! Parce que je suis vraiment passée de je déteste ça quand je me regarde dans la glace, c'est horrible, à en fait, j'en arrive à un stade où si je dois mettre un prix là-dessus, le prix est assez important. Vraiment, ouais, me concernant, j'ai l'impression que ça a été la voie qui m'a permis de me dire ça, en fait, ça me permet de faire la paix avec ces attentes sociales qui sont que je sois l'objet parfait sur le marché de l'amour et le fait que je ne veux pas être dans une performance de la féminité en échange de rien, en échange de pas grand-chose, à des moments où j'ai pas envie, à des moments où ça me fait pas kiffer, à des moments où je devrais être dans l'intimité, à des moments où je devrais être moi-même, où je devrais avoir le droit d'être moi-même, avoir l'attention de quelqu'un qui m'apprécie pour ce que je suis. Mais qu'est-ce que ça a changé? Effectivement, c'est que y a plein de gars qui du coup ne sont plus du tout intéressés. Ce sont en fait les gars qui se comportent comme des clients. Les clients plus du tout intéressés par moi, genre vraiment. Il y a un paquet de gars qui tout d'un coup se rendent compte que si je joue pas le jeu de la féminité performée, waouh, on n'y va pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que du coup, les interactions qui restent, c'est des interactions qui sont avec des gens qui sont pas des clients en fait, qui n'attendent pas que je sois un produit, qui n'attendent pas que je sois cette performeuse de la féminité, qui sont partants pour avoir une relation qui est authentique avec la personne que je suis. Qu'ils apprécient réellement. Et ce nombre de personnes-là est vachement plus réduite. Moi, j'avais vraiment, quand je parlais de l'apparence, donc là, j'ai parlé des poils, par exemple, mais j'étais beaucoup chagrinée pendant très longtemps de me dire que j'étais pas un bon matériel à trophy wife, parce que la trophy wife, c'est la femme trophée. La femme trophée, c'est la nana, c'est la femme mannequin du gars super riche qui se balade avec elle à son bras pour montrer à quel point il a réussi dans la life. Et je me disais, c'est dommage, je cochais pas mal de cases dans ce qu'on attend de la féminité, etc. Quand on parle effectivement des privilèges, je fais partie des femmes qui ont le privilège d'être pas mal représentées en fait dans ce qu'on voit dans la médiatisation de cette fiction féminine. Donc ça, c'est un privilège que j'ai. Et il y avait un gros truc qui était de dire, mais par contre, en fait, je suis complètement timbrée. Aucun gars qui pèse voudrait de moi parce que je suis pas une bonne trophy wife, parce que je me la ferme pas, parce que je raconte des trucs chelous, parce que je suis trop expansive, parce que je suis trop féministe, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté comportement, en fait, de dire vraiment, être un produit sur le marché de l'amour, ça se limite pas à avoir l'apparence parfaite, ça se limite aussi à dire les choses qu'on attend de nous qu'on dise. À se comporter d'une certaine manière pour obtenir l'approbation. Moi, je me rappelle même à un moment, j'étais à la phase où je faisais mon profil sur Tinder et je me disais, bon, qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant pour que les gens aient envie de me parler, etc. Et puis, je m'étais dit, quelle est l'image que je suis censée avoir pour bien me vendre, quoi? Et j'en étais arrivée à la conclusion, peut-être des petites. Le truc horrible, j'ai honte de l'admettre. Je m'étais dit, est-ce qu'il faut que je fasse une photo où je fais du yoga? C'était mon truc de me dire, peut-être c'est ça que les mecs veulent. Ils veulent une meuf qui fait du yoga, je sais pas, une meuf qui a un leggings super moulant, qui fait des acrobaties, qui monte, qui fait du sport, qui prend soin d'elle. Bon, la vérité, je suis pas une sportive. Mais vraiment, jamais, j'ai jamais été une sportive. J'aime pas le sport. Éventuellement, le yoga, je pourrais aimer parce que ça peut être un peu plus posé, mais j'ai jamais eu la discipline de faire du yoga. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de faire semblant d'être une autre personne sur les applis de rencontre, bah, tout de suite, les rencontres étaient moins fatigantes parce que j'avais moins besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et voilà, je conseille l'expérience. Je conseille l'expérience de ne plus être un produit sur le marché de l'amour, de faire les choses qui nous font kiffer nous et de voir qui match en face, qui sont les gens qui disent waouh, cette nana a l'air de kiffer sa life. J'aime ça. Et pas le gars qui fait waouh, la meuf a le make-up parfait, la tenue parfaite, tous les attributs de la féminité parfaite, j'aimerais bien l'utiliser tel un sac à main. Voilà. Comment ça se passe la vie quand on n'est plus la pancarte géante qui appelle les clients? Bah, quand on appelle des clients, on obtient des clients en fait. Et c'est épuisant. Le couple, c'est un endroit où on devrait être dans la détente. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où j'ai envie d'être pumped up et d'être mature. Aujourd'hui, je vais être toute make-up, j'ai une super tenue et je vais être vraiment dans ce truc très glam, etc. Mais c'est pas ça le couple en fait. Ça, c'est pas le quotidien du couple. C'est des épiphénomènes où on se fait kiffer. Où on se met sur son 31 pour se faire kiffer. On se met bien parce qu'on a juste envie de marquer un peu le moment, mais pas parce que c'est ça qu'on a vendu et qu'il faut tenir l'engagement pour que le client reste. C'est horrible ces couples. C'est horrible ces couples où la meuf elle est tellement dans le travail, elle est en train de nourrir un puits sans fond d'une espèce de monstre qu'elle a créé qui est cette espèce d'attente qu'elle soit toujours en train de performer. Donc voilà, je conseille fortement. Ah, quelqu'un a validé. Trop cher. Waouh, 7000 euros, je valide, c'est les commentaires. 7000 euros, je valide. Mais je le ferai pas tout de même. Ben, en fait, c'est ça, en fait. Genre, vraiment, quand on est en mode, genre, comment je me sens? C'est vraiment, on retourne vers l'intérieur. C'est pas genre, est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il me valide? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? C'est comment je me sens là-dedans? Comment je me sentirais à l'idée de retirer mes poils? Est-ce que 7000, ça les vaut? Bon, le prix, en fait, le prix, quand je parle de la grille tarifaire, c'est un repère pour pas, en fait, trop se brader, mais en fait chacun a son prix. Chacun a son prix, il y a des nanas qui mettent des prix super élevés sur des prestats parce qu'elles n'ont pas envie de les faire, et que je dis je veux pas dire non complètement, si on paye beaucoup je le fais. Alors que d'autres me disent non, moi ça va, je le fais pour le prix du marché, voilà, chacun son prix. Mais peut-être dans le couple on peut justement ne pas être un produit quoi, c'est quand même plus sympa. On passe son temps à se vendre au taf, entretien d'embauche, machin, etc. Est-ce que dans le couple on peut être à le moment où on se détend, on est nous-mêmes? Et on n'est pas en train de se dire, est-ce que je l'ai convaincu de m'embaucher? On me demande est-ce que la rediff de ce live sera sur mon Insta? Alors oui, et ce sera aussi sur des plateformes de podcast. J'aimerais bien tester ce nouveau format, de faire des épisodes qui sont basés sur les questions qu'on pose, les trucs qui vous intéressent vraiment. Donc voilà. Alors je vois qu'on a fait le tour de tous les commentaires. Si vous avez des commentaires à faire, c'est le moment. Des questions, si vous avez des questions. C'est le moment, car ça fait presque une demi-heure qu'on est en live ensemble. Et mes timings sont. Donc pour poser des questions, en bas il y a marqué commenter, et c'est là qu'il faut cliquer. Merci pour tout ce que tu fais, me dit Chamboulba, bah, avec grand plaisir. Parce que ça me fait kiffer en fait. Là, ce live me fait kiffer. Alors peut-être, vous aurez remarqué que le rythme était un peu plan-plan au démarrage, parce qu'il fallait que je me mette dans le bain. Comme je dis, c'est un nouveau format, et au fur et à mesure que je suis de plus en plus à l'aise, ça devient de plus en plus fluide. Parce que je kiffe, effectivement, je suis là parce que je kiffe. Ça me fait plaisir. Bon. Donc du coup, n'hésite pas, si tu as des questions par rapport à tout ça, des anecdotes, si toi tu as un prix différent sur combien ça coûterait d'accepter de t'épiler, ou de faire un autre truc de la féminité performée. C'est quoi le truc de la féminité performée que tu fais plus, et quel prix tu mettrais dessus en mode genre, pour vraiment acter qu'en fait c'est un truc qui te fait tellement plus kiffer et que tu fais tellement plus en échange de rien, que ta vie est en train de changer, de prendre un autre tournant. Écris-moi ça en commentaire si vraiment si ça te rappelle des moments de ta vie, des performances de la féminité foireuses qui t'ont saoulé, si tu as envie de faire une grève aussi de la performance de la féminité, si ta version comment je me kiffe ne contient plus du tout de performance de la féminité, ou si elle en contient encore. Je sais que si par exemple quand on a passé du temps à apprendre parce que ça nous faisait kiffer aussi, je sais pas, à danser. Je vois des nanas incroyables qui ont des moves de fou. Je kiffe danser moi-même. Ben à un moment, on se dit, même si je suis féministe, si je tourne la question vers moi, comment je me sens quand je danse? Ben je me sens bien, en fait. Et c'est un truc qu'on dit, bah, si je le fais pour le kiff, c'est cool aussi, quoi. Il y a marqué, je ne referai plus rien de ce que j'ai arrêté de faire. Ah bah, ben ça, c'est trop cool. Ah, ça, je pense que ça va être un prochain live. On propose la charge émotionnelle et l'éducation du mec. Ça, c'est vraiment un sujet qui me parle. Trop bien pour la rediff. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Ça me fait un bien fou dans ma construction, reconstruction, ça c'est un des commentaires dans le live. Donc voilà, le live est sur mon compte. Si tu veux poser des questions, passer des anecdotes, tout ça, tu peux le faire sur Insta. Si tu veux pouvoir poser les prochaines questions pour les prochains lives, participer au sondage pour choisir les prochains thèmes, c'est aussi sur mon Insta. Si tu as. Tiens, j'aimerais bien. Si tu as écouté ce live, cet épisode, que ce soit sur cette plateforme ou sur une autre, ça me plairait de savoir c'est quoi le truc qui t'a marqué, la petite phrase pépite qui t'a fait un peu. Qui t'a dit, ah oui, c'est vrai, ça me parle. N'hésite pas à m'envoyer un message avec cette phrase-là pour que je sache mieux qu'est-ce qui vous apporte. Par contre, je continue à mettre des robes et j'adore danser et chanter. Ouais, voilà, complètement, ça c'est un truc de la féminité performée qui en fait, bien sûr qu'on n'a pas commencé à porter des robes parce qu'on avait un choix immense de le faire, mais si au demeurant on aime bien. Why not? Moi, j'ai encore rien abandonné, mais peut-être un jour, pas prête à abandonner ma carapace. Ben, faut pas se faire violence, en fait. Faut vraiment se dire comment je me sens. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et juste se dire, je le fais parce que, pour moi, en fait. Et peut-être je le fais parce que j'ai pas envie d'avoir peur. Mais c'est aussi une façon de prendre soin de moi, vraiment se tourner vers un truc qui est une sorte de générosité pour soi-même, en fait. On a passé tellement de temps à faire le taf pour les autres, avec tellement de persévérance, de talent, d'abnégation, de le faire, on n'avait pas forcément. Il est temps de retourner cette générosité vers soi-même, de faire des trucs vraiment pour se faire kiffer et pour se faire du bien et pour être là pour soi et pour prendre soin de ses besoins, que ce soit des besoins de joie ou des besoins de repos, ou des besoins de confort. Tiens, ça, c'est un truc. Je ne porte plus de vêtements dans lesquels je ne suis pas confortable. Des fois, il y a des vêtements qui sont trop canons, mais je me sens pas bien dedans en fait. Genre vraiment, je me sens pas confortable. Et je me suis rendu compte que je pouvais me draguer en portant des choses qui me faisaient du bien, même physiquement en fait, même sensoriellement. On m'écrit, je me drague, ça me parle de ouf, c'est un truc que je veux continuer à faire toute ma vie. Ouais, ça c'est vraiment une phrase que j'ai trouvée puissante et rendons à César ce qui est à César. C'est une phrase de Olympe de Gé dans son journal de la grève du sexe. Est-ce que c'est la grève? Non, c'est son journal de la grève de l'hétérosexualité peut-être. Je sais plus c'est quoi le terme. Mais Olympe de Gécel qui a dit ça, et j'ai kiffé cette phrase. Bon, je vais vous laisser, tout le monde. Merci pour cette participation, pour votre présence, pour vos questions, pour vos remarques, etc. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau live, pour aborder un sujet qui vous plaît, qui vous intrigue. Ouais, un sujet que vous avez envie que j'aborde, quoi. Ah, quelqu'un m'a noté dans les commentaires, je ne porte plus de sous-vêtements pas sexy. Non, je porte de plus en plus de sous-vêtements pas sexy. Oui, alors là, effectivement, dans les sous-vêtements sexy, il y en a que je trouve pas confortables du tout. Donc des fois, quand je trouve des trucs où je me trouve bien dedans et où je me trouve confortable, je dis, toi, je te garde pour les jours où j'ai envie de me faire kiffer en mode genre sexy, mais ça va pas être toi à la base. Bon, sur cette touche pour la fin, je t'envoie du love et tu dis à bientôt.